Bonsoir, bonjour. C'est le vendredi 13. Une discussion avec. J'étais en formation et. Une discussion ce matin de. Certaines personnes disaient que c'était. Que ça portait chance. Et d'autres disaient que non, pas du tout. Vendredi 13. Quelqu'un disait qu'autrefois il y avait toujours une cagnotte de loterie spéciale dans la rue 13 et que tout le monde dans son bureau achetait un billet ce jour-là et qu'elles n'ont jamais gagné. Mais c'est difficile de dire est-ce que. Donc, qu'est-ce que ça veut dire porter chance? Comment on dit, quel est le contraire de porter chance?
Malchance? Malheur?
Porte-malheur. Porte-malheur. Parce que bah, si on peut prendre cette situation de ces gens qui achètent un livre de. Elles n'ont pas gagné. Mais si elles avaient gagné, c'est impossible, ça ne peut pas être parce que ça n'a pas eu lieu. Mais disons que bon, elles ont gagné, on ne sait pas du tout ce qui aurait passé. Hein. Peut-être elles auraient disputé jusqu'au point de ne plus être les copines de qui avait quoi comme argent. Peut-être qu'elles auraient acheté une maison. Dans un endroit où il y avait une tempête et la maison était détruite et elles ont tout perdu ou c'était un voyage et je sais pas, l'avion s'est écrasé, enfin on sait pas. Donc quand on dit que c'est un malheur ou ça porte la chance. Une chance, non, on ne sait pas. Parce qu'on ne peut même pas juger qu'est-ce qui est malheur et qu'est-ce qui n'est pas. Une façon absolutisante. Parce que dans telle ou telle situation, on peut dire qu'on est malheureux. Mais on ne sait pas ce que ça va être, des conséquences à la suite de ça. C'est pas du tout ça dont je pensais parler ce soir, mais enfin je n'avais pas du tout d'idée, donc j'allais ouvrir aux questions. Si vous avez des questions ou des choses à dire, des commentaires, ou sujets de discussion.
J'ai une question. C'est un truc. Qui m'est revenu là, ces semaines passées et qui revient souvent, mais j'ai l'impression que c'est toute la question de à quel point il faut pratiquer, enfin il faut entre guillemets quelle intensité y mettre et tout ça. Mais enfin, je me pose la question parce que je me dis, j'ai l'impression que c'est dans les moments où j'ai été dans des pratiques, dans des contextes de pratiques très, très rigoureux et du coup difficiles, que ça a été le plus, je sais pas trop comment dire, mais le plus porteur quoi, ou bénéfique, ou là où. Enfin, voilà. Et du coup, j'oscille un peu, j'ai l'impression, entre me dire, non, mais c'est quand même important, il faut que je le fasse à fond. Euh, et, euh, entremêler ça quand j'essaye d'en faire beaucoup, il y a un moment où finalement je deviens dégoûté de la pratique en fait. Et je me dis, mais finalement pourquoi je me fais ça? Je pourrais juste très bien rester tranquille chez moi, me reposer, il y a des trucs qui m'intéressent, aller voir des amis et pas me prendre la tête. Et voilà. Et du coup, enfin, et quand. Et au bout d'un moment. Quand je suis dans ce mode-là, je me dis non mais quand même c'est dommage de pas faire tout ce que je pourrais faire pour pratiquer et pour avancer sur cette voie, parce que ça me semble quand même vraiment important. Et du coup, enfin voilà, c'est autant aussi, enfin tu vois, entre un côté et l'autre, et j'ai l'impression d'être tout le temps finalement dans le, ouais, enfin voilà, à la poursuite de l'une ou l'autre, d'une alternative ou l'autre, et je sais pas trop comment sortir une espèce de voie du milieu entre guillemets, où je me dirais bon bah je peux pratiquer un petit peu mais pas trop. Ça me semble assez peu satisfaisant, mais peut-être que j'ai tort, je sais pas.
Il me semble que c'était le sujet des dernières talks que j'ai données ici, non?
C'est ça? C'est ça,
en partie. Ouais, quelque chose de cet ordre.
Tourner autour de la...
Oui, et la question de... Pourquoi on pratique? Si on se pose cette question, ça peut nous aider beaucoup... À savoir pour nous-mêmes, si on sait pourquoi on le fait, ça peut nous aider à savoir quand on a envie de le faire ou non, quand c'est juste pour nous de le faire ou non, quel est notre désir dans ça, d'une certaine façon. Et je suis en train de lire le livre que Maître Zen à Minneapolis, qui m'a accueilli, a écrit et qui m'avait donné son livre. Et c'était un disciple de Suzuki Roshi à San Francisco dans les années 60. Il était parmi les premiers disciples de Suzuki Roshi. Suzuki Roshi n'était pas Roshi, il était sensei. Ouais, okay. Un jour, Tim, ce maître, qui était un étudiant à l'époque, il avait 20 ans, je crois, lui posait une question, quelque chose comme ça, je crois. C'est pas exactement ça, mais ça rentre un peu dans le même panier, c'est pour ça que je prends ça. Et ce qui n'est pas... était en train de... Ils étaient dans son bureau, je ne sais pas, il avait plein de tasses japonais. Et pour thé. Et dans la discussion, on était sur ces tasses, ça venait à ces tasses, et il y avait... Et Tim a dit, mais pourquoi ils sont tellement fragiles, des tasses japonais? Et comment savoir, il y en avait qui étaient très accidentés, je sais pas, qui étaient brisés, je sais pas, il y avait des feuilles, je sais pas. Et ceux qui disaient quelque chose du genre, si tu cherches le meilleur tasse, tu vas pas voir les autres. Quelque chose comme ça. Si tu cherches le tasse parfaite, tu vas pas voir les autres. Mais vraiment, c'était pas comme un enseignement. Hein. C'était dans une discussion sur les tasses, et c'était dit comme ça, et puis ils ont passé à autre chose. Mais quand même, ça avait... Ce gars Tim, il a entendu ça. Et il a dit, il était bien longtemps après que... Parce que lui, il était dans un truc, il avait eu une expérience très forte de Satori, et il voulait arriver au Japon, et vivre dans un monastère, et il a... Il était dans sa dernière année d'université à Stanford, qui est une grande université. Il s'est arrêté ses études pour se consacrer entièrement au zen et Suzuki savait tout ça. Et finalement, il n'est jamais arrivé au Japon, Tim. Il a quitté, il est allé vivre d'autres aventures, il s'est marié, il a eu des enfants, etc. etc. Finalement, il est revenu. Je ne sais pas exactement tout son parcours, mais bref. Je pense à cette histoire. Qu'est-ce que c'est la pratique ? Qu'est-ce qu'on entend par « j'ai envie de pratiquer beaucoup » Quel est approprié ? Quel est le juste milieu, voie du milieu, je ne sais pas. Ça change tout le temps. Et ce n'est pas le même pour moi que pour toi. C'est différent. Mais une grande part qu'on peut prendre, c'est de quoi il s'agit, pourquoi je fais ça, pour moi, qu'est-ce que c'est que je fais. Et c'est une interrogation vraiment bien profonde à amener, qui peut nous aider avec tout, parce que si on s'ennuie, ou si on s'endort, ou si ça me fait chier, ou... je suis en colère quand je fais une pratique, ou je résiste, je ne sais pas les différences. Ou même si je suis complètement emballée et je ne veux faire que ça. De quoi il s'agit là ? Quel est l'enjeu dans ça ? Et on peut regarder ça, quoi qu'il en soit le truc, si je suis complètement emballée. Complètement emballé par ça, ou si je suis j'ai plus envie de faire ça, c'est possible, mais il n'y a pas une absolue réponse pour tout le monde. Mais puisque tu t'interroges sur ça, ça te vient, hein. C'est bien de regarder, mais de quoi il s'agit, quelle est ma pratique. Et les contraintes peuvent nous aider. Le fait de vivre avec mon maître dans une situation quand même extrême, avec deux petits-enfants et d'autres élèves avec qui on se frottait tout le temps, avec le compagnon du maître qui était quand même pas évident à vivre avec, il y avait des difficultés quand même. Hein. Mais ces contraintes m'ont aidé, moi, c'est juste mon chemin, mais tous on peut se donner des contraintes, en moins des contraintes déjà. Hein. Personne vit exactement comme il veut vivre. Il y a toujours des limites, des problèmes, voilà. Mais ça peut nous servir. C'est pour ça qu'on se dit, ok, ben on va s'asseoir pendant 30 minutes, c'est une contrainte pour nous mettre ici, pour essayer de juste ne pas bouger ici. Moi, ces contraintes m'ont aidé à voir ce que je voulais. Ce que je voulais. À un moment, je ne voulais plus vivre dans cette situation-là. Et j'étais ravie de ne plus vivre dans cette situation. Je pense que puisque je me suis mis dans cette situation, non, j'avais un peu de mal à partir, parce que j'ai toujours un problème avec la séparation, le changement, etc. Mais je pense que j'ai fait mon processus avec ça et j'ai passé à autre chose. Ça ne veut pas dire que je ne pratiquais moins, c'était juste autre. Il faut dire aussi, s'il faut dire quelque chose, que une pratique régulière de l'assise est irremplaçable. Parce qu'on peut dire, ok, oui, je pratique quand je suis dans le métro, je pratique quand je suis avec mes amis, je les écoute, je pratique quand je vais voir ma mère, et c'est pas évident, je sais pas. Mais une pratique régulière de l'assise est unique. Ça ne veut pas dire que ça doit se passer ici, forcément. Et j'encourage les gens de ne pas limiter leur assise à quand ils viennent ici. Parce que c'est tellement, tellement précieux d'avoir cette régularité d'assise qui devient la base du reste. Ça nous permet d'être plus clair, de voir, de se questionner. Ce livre, c'est formidable, je vais le recommander à tout le monde, ce livre, parce que c'est pas du tout un mec qui a travaillé sur les cons, hein, dans son lignage à lui. Il n'y a pas une pratique des cons. Ils vont étudier les Corans comme un texte, etc. Mais la façon qu'il le fait, qu'il parle de sa pratique et de ce qui est la pratique, etc., c'est complètement questionné. Donc, si on est là et on est en colère, l'idée c'est, ok, juste regarder cette colère, de ne pas agir dessus, le regarder. Questionner où est-ce que je suis, à quoi je suis attachée quand je veux pas que mon petit-fils fasse ceci ou cela. Enfin, je donne les exemples qu'il a donné. Mais on peut tous faire ça. Quand on est assis, si on est là et on est en train de... Il parle d'un de ses disciples, une femme qui est venue et qui dit, j'ai bien réfléchi et j'ai établi 4 catégories de pensées que j'ai quand elle est en méditation. C'était pendant une longue retraite. Et c'est assis, comme ça, parce que c'est toujours un peu identifié avec ça. Une catégorie qui est organisée, planifiée, on connaît tout ça. Ah oui, donc qu'est-ce que je vais faire, dîner demain soir, qu'est-ce que c'est ce projet au travail, oui, ça, planifier, organiser. Bon, là, pour elle, c'était pas le plus problématique, parce que c'était très facile à voir, et comme elle le voyait, elle pouvait dire, ah ok, non, je vais pas faire ça, et juste revenir. Ça revenait. Mais c'était plus facile. La deuxième catégorie, je ne me souviens pas malheureusement parce que c'est des catégories, mais les plus difficiles, c'était les deux dernières catégories qui étaient difficiles à distinguer parce que c'était pas même si clair qu'ils existaient. C'est-à-dire que c'était difficile d'identifier quel genre de pensée c'était. Ou si c'était une émotion et puis des pensées qui étaient associées à cette émotion. Je fais ça très mal, mais je regarderai un moment de parler tout à l'heure. En tout cas, c'est fascinant, c'est très intéressant. Elle s'est regardée, elle a cherché de savoir, parce que elle savait que, enfin pour elle, il s'agissait de ne pas être sous l'emprise de ses pensées et de tout ce qui tourne autour. Et qu'elle savait, par expérience, parce qu'elle fait, que, entre guillemets, voir ce qui était en train de se passer était un premier pas vers la libération. Donc, dans le cas de l'autre, c'est donc regarder qu'est-ce qui se passe dans les deux extrêmes, quels sont les impératifs que je me donne, ou que je pense que je dois me donner, etc. Dans les deux extrêmes, juste parce que tu avais parlé des deux extrêmes, mais il y en a beaucoup, c'est beaucoup de degrés entre ces deux extrêmes aussi. Hein. Donc c'est de regarder et se questionner, de ne pas être contente avec le fait que je vois. Après, dire ok, mais qu'est-ce que c'est cette colère, et pourquoi je reviens à ça tout le temps, euh, Et parfois, la colère, on dit que ça appartient à le domaine de l'enfer. Parce qu'il y a toute une imagerie de 5 ou 6 domaines. Et l'enfer, c'est la colère. Et parfois, la colère peut, donc c'est considéré comme l'enfer chaud. Et ça peut se transformer en haine. Et haine, c'est l'enfer froide. Et parfois, c'est plus agréable. Parce que c'est plus maniable, on a l'impression de contrôler quelque chose dans la haine. Tandis que dans la colère, on essaie de contrôler, mais ça risque de déraper. C'est un exemple de comment on peut regarder, donc, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est cette colère? Qu'est-ce que c'est cette haine? Est-ce que ça répond? C'était très long et compliqué. Mais...
ouais, mais... tu t'as dit à un moment... on peut regarder ce qui se passe et je comprends bien, je sais que que je peux faire ça avec tout en fait, voilà, au moment où je me dis voilà, j'ai vraiment pas envie d'être assis là ou et juste rester là et laisser juste là quoi et je peux faire ça aussi quand je me dis que ça sert à rien de pratiquer par exemple juste rester là avec ça et puis continuer à être assis. Ou quand je me dis que j'ai envie de faire autre chose, ou que c'est pas... Et voilà, et donc je peux faire ça avec tout ça, et je peux continuer à pratiquer au milieu de tout ça. Et même avec la difficulté, avec la difficulté qui vient à ce moment-là, parce qu'au moment où je me dis, mais en fait j'ai pas envie de faire ça, là. Où j'ai envie de faire autre chose, où c'est difficile, où je suis fatigué, où... Voilà. Il peut y avoir petit à petit bah, de l'ennui ou plein de trucs, mais du dégoût aussi qui vient vis-à-vis de la pratique. Je me sens dégoûté. Et je peux continuer à faire ça, avec ce dégoût-là.
Et pourquoi continuer de faire ça avec le dégoût, par exemple? Tu peux te questionner pourquoi ça me dégoûte, mais je le fais. Tu peux te demander pourquoi. Qu'est-ce qui. Parce que, en fait, oui, la pratique, l'assise, c'est on le fait avec ce qui est. Mais on le fait parce que c'est ça qu'on veut faire. Donc, si on est malade, on le fait avec. Je suis malade. Si je suis contente, je fais avec, je suis contente. Si je fais et ça me dégoûte, je fais et ça me dégoûte. Avec, je fais avec ou en étant dégoûté. Mais c'est différent que de dire ah, ça me dégoûte, ça fait chier. L'important c'est de voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait. Et là, on est plus libre. On peut choisir, c'est insupportable, ça me dégoûte. Je sais que ça peut être. Je peux apprendre quelque chose si je le fais avec ce dégoût, mais j'ai vraiment. Là, à ce moment-là, j'ai pas envie. Et je sais de quoi il s'agit. Pour moi, enfin, je sais pas.
Mais en fait, je pense que c'est juste là, un truc qui coince pour moi, c'est que tu as dit, à ce moment-là, on peut choisir. Mais en fait, moi, j'ai justement l'impression que dans la mesure où je peux faire, où je pourrais me lever, je peux aussi parfaitement, à ce moment où il y a ce dégoût, je pourrais me lever, je pourrais arrêter et puis aller faire autre chose. Et je sais que je peux aussi juste rester là avec ce dégoût-là et comme tu dis, et continuer à être là avec tout ça et à habiter tout ça, à habiter ce dégoût, etc. Et que je peux continuer comme ça. Et du coup, je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas du tout si je devrais continuer. Enfin, je ne sais pas du tout comment choisir, finalement. Mm-hmm. Choisir entre continuer ou arrêter.
En continuant, tu as déjà fait un choix. Apparemment. Ou en ne pas continuant, tu as fait un choix. La question c'est, alors, qu'est-ce que... C'est comme quand j'accouchais de mon deuxième enfant, et c'est quand même, l'accouchement, c'est sévère, hein, c'est sérieux. Et Rocher était là, et elle me dit, va dans la même direction que la douleur. Ça a tout changé. Et c'était un enseignement invraisemblable, dans un moment très critique. Et c'est ça, j'avais choisi d'aller dans la même direction que la douleur. C'était pas, je me suis pas dit, ok, bon, cette douleur c'est atroce, mais je vais le faire. Non, j'ai choisi de me laisser aller avec la douleur. Et c'était une telle libération d'être entièrement la douleur. Et c'est ça dont il s'agit quand on dit, on s'assoit avec le dégoût, on est entièrement le dégoût. Ou on est entièrement l'ennui. Et ce qu'on découvre, si on fait ça, c'est qu'on n'est plus, il n'y a plus d'ennui. C'est comme je recommande aux gens quand ils ont sommeil. Bon, parfois on est vraiment fatigué, mais moi quand j'ai vraiment cette torpeur, je dis ok, pendant 30 minutes, pour cette période-là, je dors. Et je me laisse dormir. Et après un temps, je ne suis plus fatiguée. Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée et je me suis reposée, ou c'est parce que je ne résistais plus. Je pense que c'est plutôt ça. Je ne résistais plus. Et donc, il n'y a plus la fatigue. Il y a plus... J'étais entièrement ça. Et donc, c'est un peu ça que je dis. Et le choix sera plus évident si on fait ça. Bon, c'est essentiel de se questionner aussi, mais de quoi il s'agit, la pratique. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi aller dans la même direction que les douleurs? Moi, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que j'avais mal et je ne voulais pas sentir. Et je dis, ok, bon, on a dit ça, je vais le faire. Mais en fait... Il y avait toujours douleur, hein, mais ça faisait pas mal. Ça ne faisait plus mal. Et ça m'a aidé donc à la suite de pouvoir choisir. Avec la douleur physique, donc, quand j'ai des sinusites, un truc comme ça, c'est atroce aussi. Et je me suis rendu compte qu'avec la douleur des sinusites, j'essayais de le contrôler. D'une façon très inconsciente, de le limiter juste ici. Et je voulais le contraindre à rester juste là, et vraiment, mais ça ne faisait qu'augmenter la douleur, et ça crée une séparation aussi. Tandis que si je me décontracte avec ça, bon, ça fait mal. Toi, tu parlais là ce soir, tu as mal. Ça change. Parce que tout ça, il s'agit de libération. Et souvent, ils appellent ça en anglais hindrances. Comment on pouvait traduire hindrance?
Des empêchements, des obstacles.
Des obstacles. Des obstacles, ou un truc comme ça. Et donc, dans le bouddhisme traditionnel, il y a une liste de différences, je ne sais pas combien il y en a. Les six hindrances, les six obstacles, etc. Et toutes ces choses que je raconte rentrent dans ces différentes catégories d'obstacles. Et c'est clair que c'est nous-mêmes qui s'empêchent avec ces obstacles. Hein? Et notre attachement à ça et notre pattern. Oui, nos schémas qu'on répète. Et si on se retrouve à constamment retrouver dans le même schéma, il y a quelque chose à questionner là. C'est quoi ce schéma? C'est quoi cette chose que je répète? C'est quoi l'origine de ça? Je crois que je parlais de cette femme, ces quatre catégories de pensée, je crois que le deuxième c'était les schémas habituels. Les trucs habituels vers lesquels elles doivent revenir. Penser. C'est pas forcément dans la catégorie de planifier, organiser. Ça peut être un schéma vers lequel on vient. Mais il peut voir les choses qui sont recueillies tout le temps. Et ça ne se fait que perpétuer la chose. Mais ça s'applique aussi à une pratique régulière. On a eu cette discussion à ma formation aussi aujourd'hui, de quelqu'un qui est une femme qui est très, très anale, disons, et qui va au cinéma 3 fois par semaine, après son travail, une séance qui commence à 18h, je crois. Donc, comme ça, elle peut être à la maison à 20h, elle est plus fatiguée. Et quand elle rentre de son séance de cinéma, elle a des fiches et elle note le film qu'elle a vu. Elle note ses impressions de ça. Et elle donne un note d'appréciation. Et puis elle trimballe ses fiches pour que si elle va dans un soirée ou un dîner, avant d'y aller, elle regarde pour pouvoir parler, parce qu'elle va oublier sinon, et pour pouvoir parler d'une façon intelligente. Quoi. Ouais. Et donc... dans tout ça, il est venu, on était tous d'accord que quand on... Il s'agissait aussi d'écriture, donc quelqu'un disait qu'elle avait perdu l'habitude d'écrire régulièrement. Et je parlais de ce truc de The Way of the Writer de Julia Cameron, où on est censé, pendant 6 semaines, ou je ne sais pas quoi, tous les matins, écrire 3 pages. On ne les regarde pas après. Le lendemain, 3 pages, sans regarder. Tous les jours, on fait 3 pages, 3 pages. On s'engage à faire 3 pages, peu importe. Ça peut être, je ne sais pas écrire, c'est stupide ça, je suis fatiguée, j'ai oublié hier un petit déjeuner, j'avais pas de temps hier, un petit déjeuner, enfin n'importe quoi. C'est pour se donner une pratique. Donc avec cette histoire de cinéma, cette femme disait, et c'est très juste parce que moi c'est mon expérience, plus on va au cinéma, plus on a un goût à ça, on a l'habitude, on prête plus attention au film qui sort, on a plus envie, on se donne une pratique d'aller au cinéma aussi. Et cette régularité nourrit le fait d'y aller. Mais c'est vrai avec tout. Et c'est vrai avec les schémas névrosés de nos pensées, et c'est vrai avec le fait de lâcher prise de ces schémas, et c'est vrai avec le fait de s'asseoir. Plus on le fait et on s'installe dans cette... On voit très bien après les vacances où... Après les vacances, c'est pas une bonne idée parce que souvent on a un élan après les vacances, on va vraiment faire quelque chose. Soit on va revenir faire zazen beaucoup, aller au gym, ou je sais pas. Mais on sait très bien qu'il y a un moment où on lâche petit à petit et on a perdu l'habitude. Et donc, moi, je parlais de moi à propos du cinéma, parce que moi, je vais régulièrement au cinéma. Mais pendant l'été, pour X raisons, d'abord, je n'étais pas beaucoup ici, et donc il y avait une longue période de 6 semaines, presque 2 mois, où j'ai pratiquement pas été au cinéma, et je suis un peu plus d'habitude. ça semble énorme maintenant, tous les films que j'ai pas vus, que je veux voir, et c'est impossible. Donc comment je vais faire? Donc ça paraît étrange, mais le faire nourrit le faire, la pratique. Jusqu'à ce qu'on vraiment ça devient ce qu'on est et ce qu'on fait, etc. Et on n'y pense même plus. Je crois que c'était ça, on est devenu à ça. Je crois que c'est Joa qui a dit ça, non?
Non, c'était le. Je
ne
sais pas comment ça dit son prénom. Ah, je vais l'appeler aussi, mais. L'autre monsieur qui vient.
C'était Vincent?
Vincent.
Qui disait ça?
Qui s'assoit tous les jours jusqu'au. Sans plus poser la question. Oui, Joël disait que depuis qu'il y avait le centre,
c'était devenu beaucoup plus fort. Ouais. C'est comme se laver les dents. Il le fait. Sans dire est-ce que je sens faire ou non aujourd'hui, est-ce que ça me fait du bien ou non, est-ce que je suis malade. Enfin, peut-être quand il est enfin au fond de son lit, il ne le fait pas, mais est-ce que je suis un peu fatiguée ce matin ou il le fait. Et ça se passe. Si vraiment on le fait, on se met dans un dispositif, et encore, je répète, on n'est pas obligé de le faire ici. Ça ne se limite pas ici. C'est comme Gampo disait à la fin de cette retraite, quand quelqu'un disait « Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La retraite était superbe, c'était facile, tout le monde est gentil, j'avais rien d'autre à faire, sauf laver les vaisselles, et puis maintenant je dois rentrer, il y a la femme, les enfants, il faut faire réparer la voiture, il faut payer l'assurance, il y a les impôts, mon boulot, etc. » Et Gampo lui dit, si tu ne veux pas quitter le Zendo, ne rentre pas dans le Zendo. Mais c'est pas, ne viens pas à la retraite si tu ne veux pas repartir, c'est ne fais pas les distinctions de ce qui est l'univers, c'est le Zendo. Chaque endroit est le Zendo. Ça ne se limite pas à venir ici. Ça ne se limite pas non plus à faire Zazen, comme on dit. Au même temps, Zazen est essentiel pour pouvoir maintenir ce contact, cette présence dans ce qu'on dit aussi, mais c'est la pratique, ça aussi. C'est vrai, c'est la pratique. Mais on a très peu de chance de maintenir cette présence et cette attention si on n'est pas régulièrement sur un coussin. C'est extrêmement difficile. Je pensais que je n'avais rien à dire. Et là, tu poses deux questions et je me barre dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'est similaire à la semaine dernière.
Oui, c'était ça.
Et la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a posé une question ?
Non.
C'est moi qui s'est lancé dans ça. C'est pas la semaine dernière, d'ailleurs.
Si, c'est la semaine dernière.
Ah, tu n'étais pas là.
Non, c'est pas, tu avais un sujet, puis après on a... Plus on a pu faire plus. Et un truc que j'ai dit la semaine dernière, mais du coup, la question à quoi ça sert, pourquoi on le fait, au bout de ce point, je pose exactement les mêmes questions que toi, et Amy m'a posé exactement cette même question avant l'été, que je me point, et c'est la question la plus dure de laquelle j'ai jamais eu à répondre. Elle est affreuse, cette question. À quoi ça sert? Ça, c'est une bonne question. Et la question à rien ne marche pas. Genre, ça ne sert à rien. Enfin, parce qu'on se dit, il n'y a pas de raison, on n'a pas besoin de. On ne pratique pas pour une raison. Cette réponse, elle marche.
Oui, Mais c'est passionnant comme question aussi, en même temps. Ouais. Et moi je me pose cette question aussi de différentes manières, mais pourquoi je me m'impose cette histoire-là. Pourquoi je fais ce truc d'aller trois fois par an au Portugal? Je me demande, c'est une façon. Pourquoi je me suis. Parce que je me suis donné ce contrainte de tous les vendredis soirs pour donner un talk. Il y avait une époque où je ne faisais pas. Au début, c'était le dernier lundi du mois.
Ça fait longtemps.
Oui, mais avant Red Earth, quand on n'avait pas Red Earth, c'était ça. Et on faisait le dernier vendredi du mois parce que Delphine était libre ce lundi-là, je crois.
C'est ça? C'est possible.
Ouais. Et qu'elle s'est plaint que, apparemment, c'était pas programmé, ou je sais pas, bref. Donc, on avait fait quand elle pouvait ça. Et puis, à un moment, elle ne pouvait plus être là, du tout, le lundi, ou elle, je ne me souviens plus pourquoi. Et on a commencé le vendredi soir, et donc on a dit, ok, bah, on va faire le truc vendredi soir, et plus le lundi. Mais c'est moi qui s'est imposé cette contrainte de donner un talk. À l'époque, Roshi, Adana, elle ne donnait pas les talks en semaine. D'ailleurs, je me suis donné cette contrainte avant,
bah oui,
quand tu venais le mardi, le mardi soir à Montreuil, oui. Ah ouais, j'ai donné ça avant. Et je me suis donné cette contrainte parce que, quelque part, j'ai reconnu que je voulais parler, que je voulais partager, mais je ne savais pas comment, il n'y avait pas un... On faisait très peu de retraites. Je voyais les gens une fois par semaine. Et même, il y en avait qui ne venaient pas chaque semaine à cette époque. J'avais besoin de pratiquer, d'avoir cette pratique de parler, de partager, etc. Et donc, je me suis donné cette contrainte. Et bien que souvent, c'était pas, j'avais pas du tout envie. Hein. Un peu. Parce que véritablement, j'avais envie. Mais parfois, j'avais pas très envie.
Les deux à la fois.
Oui, c'est ça. C'était un peu ce que tu dis. Tu vois, c'est. Oh, je pouvais rester tranquille sur mon coussin. Pourquoi? Et je vivais le fait de demander aux gens de poser des questions plutôt que ce venait de moi. Je trouvais que c'était un, comment on dit en anglais, un cop out, une fuite.
De
quoi?
Oui.
Je trouvais, mais j'étais très dure avec moi-même. Hein. Mm-hmm. N'oublie pas qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, ah oui, tes tortes sont vraiment nues. Hein. Donc, ah ben merci. Hein. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Ah oui, donc j'étais très dure avec moi-même. Mais bon, je n'ai pas de regret. C'est, je trouve que c'est important. Aujourd'hui, j'ai aussi l'option où je fais un cercle de parole parfois quand je ne me sens pas. C'est pas une fuite, j'accepte maintenant. C'est pas une fuite, c'est juste que je suis en contact avec quand c'est plus juste de faire un cercle ou tout à coup.
Et ce que tu dis aussi, c'est toujours toi qui prends la parole, c'est une forme. Parce que tu le dis comme ça, mais tu as déjà dit que c'était une façon de monopoliser la parole aussi. Non. Quelle que soit la façon de le dire, on peut trouver quelque chose à redire. Enfin.
Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis parfois c'est plus juste qu'on entend les autres voix. Et aussi de donner l'espace à poser des questions, parce que j'ai tendance à ne... Ou j'avais, peut-être j'apprends un peu, à ne pas laisser l'espace des questions, parce que je pense que probablement d'une façon consciente, je pensais, j'avais peur qu'il n'y aura pas de questions. Ou que si les gens posaient pas des questions, c'était parce que ce que j'avais dit était pas bien, je sais pas, hein, c'est des trucs inconscients que je peux questionner. Mais c'est une façon de ne pas donner la parole aux autres. De même, quand j'avais demandé à Joël de faire un talk, là aussi c'était une lâcher prise pour moi. Parce que je voulais le faire, hein, c'était approprié à ce moment-là, etc. Mais il a fallu que je lâche l'idée qu'il n'y a que moi qui parle. Il n'y a que moi qui donne un talk. Et de lui laisser dire ce qui venait pour lui. C'était pas. C'est pas qu'il parle comme moi ou qu'il dit la même chose que moi, mais il s'exprime à sa façon. Donc ça aussi, pour le teacher, pour l'enseignant, c'est un lâcher prise aussi. Ça.
Ouais, je trouve ça vraiment compliqué de savoir... où on met la limite entre entre pratiquer avec la difficulté et se faire violence, quoi. Je ne sais pas trop comment
poser la question. Mais... C'est absolument, c'est vrai. C'est pas évident. Et la seule façon de le faire, c'est la meilleure façon que moi je trouve, c'est de rester avec. Je ne sais pas ce que c'est la bonne réponse. Je reste avec. Parfois, c'est encore une histoire qui vient de ce livre, parler de quelqu'un qui, chaque fois qu'elle venait en retraite, elle tombait malade. Après un ou deux jours, malade. Et j'ai connu des gens. Tu te souviens, Hank, le grand Hank, le Hollandais?
Oui.
Toujours, il venait en retraite,
mais
malade.
Il continue à venir.
Enfin bref, donc, chaque fois qu'elle venait, elle tombait malade. Et c'était la nausée. Elle avait une nausée, mais insupportable. Et donc, elle, à chaque fois, était obligée de partir. Ou rester dans son lit, je ne sais pas. Et donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Et donc, elle a décidé de... Plutôt que elle voulait, elle était vraiment une pratiquante sérieuse et elle voulait vraiment, d'une façon consciente, hein. Et donc elle a décidé de, je ne me souviens pas exactement comment ça s'est passé, mais donc elle venait et elle essayait de rester le plus possible avec ça, avec ce nausée, avant que c'était impossible de rester. Et le fait de faire ça. C'est un peu ce que je te dis, tu restes avec. Ça change. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte, après un certain temps, je ne me souviens pas combien de temps, qu'il y avait quelque chose avec cette nausée était associée avec une peur de l'abandon qu'elle a eue quand son père est mort quand elle était très jeune, un cancer ou un truc comme ça. Et je ne me souviens pas les détails, mais c'est pas très important. Mais elle s'est rendue compte ce qui se passait, de quoi il s'agissait, cette nausée. Et donc, ça l'avait aidée. Je ne sais pas si elle l'a surmontée, je ne sais pas exactement ce que c'était la suite, mais ce qui est la chute dans son histoire, c'est qu'elle s'est rendue compte de quoi il s'agissait. Donc c'est pour ça que c'est un exemple de l'importance de rester avec. Et parfois, on ne peut plus, et donc comme elle ne pouvait plus, elle pense que ce type, cet Hollandais, donc on va parler avec Brigitte, c'était vraiment à chaque fois qu'il venait, il avait la grippe, il restait dans sa chambre, dans son lit, mais chaque fois. Et c'était clair qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Je ne sais pas ce que c'était. Hein. Je ne sais pas si lui, c'est. Je pense que ça doit être le temps, non?
25.
Hein?
25.
Ah oui, c'est le temps. Merci. Il faut appuyer. C'est quelque chose?
Non,
c'est pas ça. J'ai peur.